Le Salon des maires et des collectivités locales du 19 au 21 novembre 2024 à Paris Expo, Porte de Versailles sur Radio Immo et Radio Territoria.
Eh bien, bonjour les amis, vous êtes sur Immo et sur Territoria. Nous sommes en direct de la 106e édition du Congrès des maires de France. Je vous rassure, j'étais pas là il y a 106 ans. Hein. Voilà, et accompagné bien évidemment dans les autres halls du Salon des maires de France et des collectivités locales. On est ravis d'être avec vous. Il est 11h, il est 12h20 exactement. Et nous sommes en direct. On égrène effectivement le rôle des élus locaux. Là, pour le coup, on va recevoir un élu local un peu singulier, puisqu'il a des activités extrêmement diverses, notamment dans la fabrique de la ville et l'immobilier. Bonjour Yannick Borde.
Bonjour Sylvain.
Yannick, vous êtes... Alors, c'est intéressant parce que tout à l'heure, j'ai reçu Florian Berco, maire de Laval, qui est à une encablure de Saint-Berthevin. Vous êtes maire de Saint-Berthevin, vous êtes le président, surtout emblématique, du réseau Procivis, qui, je le rappelle, est un réseau de promotion immobilière, mais pas que, qu'il faut, parce que vous faites aussi de l'immobilier opéré, qui est le seul réseau coopératif existant de cette nature. C'est assez singulier pour le rappeler systématiquement. Grosse actualité pour vous, Yannick Borde, on peut le dire ?
Oui, peut-être, oui.
Ben, voilà, en tout cas, la presse s'est répandue, vous êtes chargé par le gouvernement de présider une configuration potentielle de création d'une banque de la rénovation énergétique. Quelques mots sur cette actualité ?
Alors sur cette actualité, en fin de compte, c'est un sujet que le réseau Procivis porte depuis déjà de nombreux mois sur la transition énergétique et environnementale du logement. Considérant que l'ambition de massification qu'aurait pu être attendue avec les efforts qu'a fait le gouvernement, notamment avec MaPrimeRénov ou le renforcement de Dana, n'est pas au rendez-vous. Donc on avait beaucoup écrit, on a beaucoup documenté là-dessus. Effectivement, on est dans les derniers instants de calage d'une mission que je présiderai vraisemblement sur,
sur une préfiguration d'un établissement. Vous prendriez le destin de cet établissement éventuellement ?
Ça, c'est un autre débat, parce que d'abord, à un moment donné, il faut aboutir pour faire la conclusion avant la mission. Et puis après, c'est d'autres paramètres. Mais c'est vrai que c'est un sujet d'abord qui me tient à cœur. Je pense que la particularité du réseau d'être à la fois un acteur de l'immobilier existant, mais aussi avec une culture financière liée à une histoire un peu ancienne, mais qu'on continue de piloter sur le financement des particuliers, lui donne une légitimité. Et c'est aussi pour ça que, en qualité de représentant du réseau, on m'a sollicité sur cette mission-là. Donc nous, c'est vraiment un enjeu important. J'espère que tout le monde va pouvoir se mobiliser. Il faut qu'on embarque beaucoup de monde dans le projet. Tout le monde est assez d'accord sur le diagnostic. Peut-être que tout le monde a encore des questions sur la formule à la fin. Mais c'est le moment, sinon on continuera de faire des constats et ça sera embêtant.
Ce ne sera pas une énième commission, une énième disposition, un énième outil. Vous avez une vraie ambition, vous, lorsque vous avez travaillé cette feuille de route. C'est vrai que vous avez été d'ailleurs, il faut le dire, le premier groupe à travailler à fond sur cette question.
Oui, et puis nous, on le fait à notre niveau avec ce qu'on appelle chez nous les missions sociales depuis 2007. Donc c'est un sujet, l'accompagnement du parc privé pour les populations modestes, mais pas que, parce qu'on a le sujet de la copropriété, où dans une copropriété, vous avez un peu, dans la plupart des cas, tout type de population, entre guillemets, en tout cas de niveau financier. Donc c'est un sujet sur lequel on croit beaucoup, et puis c'est un sujet majeur dans le contexte actuel, sur la question environnementale, évidemment, mais aussi sur la question du secteur du logement, c'est-à-dire comment on fait pour maintenir un patrimoine important dans l'offre de logement actuelle, surtout dans une période de crise importante. Et à partir de là, on se dit, est-ce que c'est la bonne formule d'attendre que chacun réinvente un truc à sa sauce qui sera très compliqué à lire de façon collective, ou est-ce qu'au contraire, ça ne doit pas être un enjeu de place bancaire et de faire en sorte que la place de l'offre financière aux particuliers se retrouve ensemble à construire une offre commune sur ce champ-là. Ce qu'elle sait faire dans beaucoup d'autres domaines, je prends par exemple le domaine des garanties ou des cautionnements, avec une structure comme Crédit Logement, qui est une structure partagée par l'ensemble des banques. Voilà, c'est un peu l'idée en termes de montage et en termes de business plan derrière.
Actualité également, le discours de Michel Barnier, les discours de Michel Barnier, les orientations que prend les contours du projet de loi de finances pour 2025, pas simple.
Oui, compliqué. Moi,
peux-je dire la menace annoncée d'une motion de censure, oui, par le Rassemblement national, ça a été dit, avec d'ailleurs une unité presque contre nature avec les autres forces d'opposition.
Oui.
Puisque finalement, ils se détestent, mais ils détestent encore plus Emmanuel Macron. Donc, et son gouvernement. Mais disons les choses comme elles sont. On est sur une équation très difficile à trouver. Les premières victimes, je vous le dis, ce sont les Français qui seront mal logés. Mais vraiment mal logés. Et quand on entend une augmentation de 0,5 points des droits de mutation qui frappera durement les primo-accédants, parce que 0,5 points, c'est de l'argent pour les primo-accédants et l'accession à la propriété, alors que l'accession à la propriété, et vous l'avez dit, reprend un peu de couleur et qu'on était peut-être sur un plateau, vous l'avez dit également, par rapport à la baisse des taux directeurs de la BCE, où on a regagné 75 points de base, vous avez dit, il faut que ça reparte, parce que c'est le ventre mou, je reprends vos mots, du marché, bien évidemment. Yannick Borde, ça doit vous sidérer, réactions.
Oui, alors c'est un moment très difficile.
Alors il paraît que c'est les maires qui le demandent. Hein. Bon, voilà,
oui,
on dit,
alors moi c'est vrai que j'ai les deux casquettes, donc c'est un petit peu, je ne sais pas, schizophrène. Mais
franchement.
Mais franchement, d'abord ce qu'il faut avoir en l'esprit, c'est que on a une situation des finances publiques qui est préoccupante, à minimum. On peut même être peut-être plus dur que ça.
Oui.
Et qu'on a tous le devoir de participer à son redressement. En tout cas, c'est ma vision. Une dette...
C'est ce que vous dites.
Ouais, c'est ma vision. Une dette, c'est important. Ça peut être une bonne dette si c'est une dette qui engage l'avenir. Aujourd'hui, ce qui n'est pas supportable, c'est la charge de la dette. Donc on a un sujet collectif là-dessus. Et c'est vrai que tous les secteurs d'activité sont a priori mis à contribution, en tout cas dans le projet de loi de finances tel qu'il était dans sa version d'origine. Et tout le monde a cette réaction qu'on peut comprendre en premier lieu, mais à mon avis qui manque parfois quand même un peu de responsabilité, qui est de dire non, mais il ne faut pas toucher à ce que moi je perçois ou ce dont je bénéficie. Le secteur du logement, pour revenir dessus, doit contribuer au redressement des finances publiques.
Oui.
Mais faisons-le intelligemment avec des bonnes mesures d'impact sur, quand on prend une mission, c'est quoi l'impact dans tous les sens. Et ça n'a pas nécessairement été fait. J'en veux pour preuve ce qui avait été décidé par les précédents gouvernements sur le logement ou sur des pseudo-ambitions d'économie budgétaire. On a perdu beaucoup plus de recettes. Donc à un moment donné, il va falloir quand même qu'on mette ça dans l'ordre. Après, ce qui est certain, c'est qu'il y a aujourd'hui une corrélation tellement forte entre la fiscalité de l'immobilier complet, hein, c'est le logement, mais c'est l'immobilier économique, c'est tout ce qu'on veut. Il y a une corrélation tellement forte entre l'immobilier hyper fiscalisé aujourd'hui, confiscatoire,
disons le mot, matraqué.
Matraqué fiscalement. Et les
avec le risque massif d'un désinvestissement de toutes les classes d'actifs, vous le savez ça.
Et les recettes des collectivités locales, qui sont liées quand même à cette fiscalité pour beaucoup, qu'aujourd'hui, effectivement, on se retrouve devant cette situation que moi je ne partage pas, où certaines collectivités voient leurs recettes diminuer compte tenu d'un certain nombre de paramètres, dont la crise immobilière est majeure. C'est le cas des recettes des départements. Et donc, pour compenser cette baisse d'activité, on va recharger la fiscalité sur les logements pour recharger les recettes des départements.
Oui.
Moi, je dis quand même deux choses. Un, les départements, ils ont été totalement absents des alertes qu'on a formulées sur la crise immobilière. Première chose. Et deuxième chose, ils ont eu...
Ah, vous y allez fort, là. Hein.
Cherchez-moi une réaction de l'Association des départements de France ou de présidents de départements majeurs venant soutenir nos alertes sur la crise du logement. Vous n'allez pas la trouver. Donc, ils ont été absents. Ils n'ont pas répondu du tout, à un moment donné, aux alertes. En tout cas, ils n'ont pas intégré cette partie-là. Ça, c'est le premier point. Et puis, le deuxième point...
Moi, je peux vous citer le président du département des Yvelines, Pierre Bédier.
Allez-y.
Oui, je vous le cite, puisque je l'avais eu la semaine dernière sur une opération, et il nous dit, je reprends ces mots quasiment texto, ils ont été d'ailleurs écrits sur les réseaux, Pierre Bédier disait, voilà, il y a quelques années, nous avons alerté très gravement sur les difficultés qu'auraient les communes du département à loger les citoyens, que la rareté et la cherté du foncier allaient poser problème, notamment dans sa configuration fiscale, et qu'il faudra nécessairement s'y pencher avec l'État, pour trouver des relais, relais. Et la semaine dernière, je l'ai revu, et Pierre Bénier me dit, Sylvain Lévy, nous y sommes.
Oui, mais Sylvain...
Je cite Bénier parce que... Voilà, c'est,
mais je dis pas... Enfin, les présidents de département sont sensibles au volet de la construction neuve. Le problème des DMTO...
Et au logement des administrés dans
le département. Oui, mais le problème des DMTO, la recette des DMTO, elle vient du parc existant. La recette des DMTO, c'est la cote. Vous savez, on construit aujourd'hui.
Mais vous avez raison.
On construit 250 000 logements neufs.
Mais oui.
On en vend 1 million.
Mais oui, mais voilà. Oui. C'est
donc,
le neuf, c'est 1%.
C'est vraiment la dynamique du marché. Et on a des départements, je pense notamment aux départements littoraux, sur lesquels il y a eu des flambées de prix énormes. Ils ont quand même surfé. Au même titre que nos clients, nous, ont pendant des années surfé sur des taux d'intérêt très bas pour accéder, les départements ont surfé quand même pendant de très grosses années sur des excédents de recettes de DMTO presque excessifs. Et donc ils ont continué, mais un peu contraint, forcé aussi par le fait qu'on leur repasse.
Vous y allez fort.
Bah oui, mais fort. Regardez sincèrement ce qu'ils percevaient en 2017-2018. Regardez ce qu'ils ont perçu en 2021-2022. Et évidemment, aujourd'hui, on est revenu. Mais vous suivez la courbe de Gauss du marché de la transaction immobilière, 800 000, 1 million 2, 800 000.
Oui.
Donc, voilà, avec en plus, eux, un effet volume et un effet prix. Et donc, c'est vrai que les départements, ils ont récupéré.
Ça veut dire quoi ? Non, mais allez au bout de votre raisonnement.
Ça veut dire que les départements.
Ils ont été riches, très riches.
Non, ils n'ont pas été riches. On leur a refilé. Un certain nombre de compétences complémentaires et on a renforcé leurs obligations en matière sociale.
Merci
et on a cru que ça allait pouvoir durer, financé par des niveaux de DMTO très élevés et qu'on n'a jamais intégré que ces DMTO pouvaient chuter de façon significative.
Merci de le dire.
Donc, aujourd'hui l'équation est compliquée.
On ne fustige pas les départements et on se rend compte, in fine, et vous avez raison, que le modèle économique, est-ce qu'on peut parler de modèle économique ?
Oui, bien sûr.
Que le modèle économique avait finalement une faiblesse majeure qui est liée au volume, à l'offre et à la demande, et qu'au simple rebond de marché, on peut se retrouver à des écarts importants. Je vous donne, encore une fois, le département des Yvelines, c'est 25% d'écart. C'est énorme.
Bien sûr.
C'est énorme sur les budgets. Est-ce que ça ne vous choque pas ? J'aimerais quand même avoir votre avis tranché, que l'État... Alors, j'aime beaucoup ce que vous dites, mais... On peut qu'y souscrire, vous dites, c'est notre devoir à tous de travailler la dette. Bon, mais à un moment donné, est-ce que j'ai le droit de gueuler un peu ? Est-ce que j'ai le droit de dire, attendez, moi je suis maire d'une petite ville, j'ai une obligation de résultat sur mon budget, vrai ou faux ?
Ouais,
vous êtes jamais allé au déséquilibre, Jean-Bertin, enfin, jamais.
Jamais.
Mais on a bien dit, jamais. Mmh. Non, mais jamais.
On est même en excès.
Jamais. C'est une belle commune, hein, Saint-Berthevin. Je peux prendre d'autres communes, peut-être moins aisées, peut-être, parce que vous cochez toutes les cases. Hein. Plein emploi, agréable, un accès à l'immobilier pas trop cher. Enfin, bref, il n'y a qu'une seule chose à faire, c'est aller vivre à Saint-Berthevin. Mais ce que je veux dire, je prends vos autres collègues maires de France. Mais c'est dramatique. Ils disent, on a un État qui a une dette colossale, qui vient à nous donner des leçons de morale, qui vient nous enjoindre d'avoir des budgets à l'équilibre au sein des régions, au sein des départements, au sein, etc., qui nous transfère des compétences. Je prends par exemple les problématiques de ressources sociales pour les plus démunis, où l'État se débarrasse de tout cela, où l'État finalement ferme des centres de soins, où l'État, par exemple, réduit les bureaux de poste, la police nationale, et finalement provoque des événements délétères, qu'on appelle les déserts, dans lesquels les services publics ont disparu, les entreprises n'ont plus de relais. À un moment donné, moi, je suis maire, je dis, attendez, il y a un sujet là. Hein.
Je suis d'accord. La réaction,
la thématique d'aujourd'hui. Hein.
La réaction, on l'a tous eue, c'est de dire, attendez, on nous ponctionne, on nous donne des leçons, alors que c'est pas nous qui sommes à la cause.
Mais demain, vous allez devoir faire des économies. Vous.
Mais une fois qu'on a dit ça, on peut s'énerver, ce qui a été le cas.
Non, mais on peut changer.
On peut réagir vivement. Pour autant, la solution, elle ne passera pas par uniquement un effort de l'État. C'est-à-dire qu'il va falloir que tout le monde fasse aussi un bout d'effort.
D'accord, c'est injuste, mais c'est pas grave.
Non, j'ai pas dit ça. Je dis c'est injuste, mais la solution sans nous, elle n'existe pas. Tout le monde doit y passer. Il faut aussi qu'on...
Oui, je
vais peut-être un peu être décalé, mais je dirais les transferts de compétences ont été un piège, parce qu'en plus, on a été dans une période d'argent facile, etc., de budget qui était plus simple. Mais si vous regardez nos collectivités... moi, ça fait 22 ans que je suis maire. Si vous regardez ce qu'on dépensait à une époque, on a transféré à l'aglo. On n'a pas nécessairement fait d'économie, c'est-à-dire quand vous regardez ce qu'il y a 10 ans, un budget d'une agglomération plus le budget des communes de la même agglomération, et la même chose aujourd'hui, nos budgets, ils ont aussi énormément évolué. Alors vous les redressez de l'inflation, vous les redressez un peu des transferts de compétences, mais je pense qu'on n'a pas toujours été dans une grande vertu de rigueur budgétaire. Donc il faut aussi, parce qu'il y a eu des moments, entre guillemets, de budget, d'argent plus facile, c'était comme ça, et on est peut-être un peu tous tombés dans un piège. Donc aujourd'hui, il faut...
Les études ont démontré la décorrélation entre le prix de l'immobilier et les revenus, ça a complètement explosé. Que justement, on a l'INSEE donc a publié une étude qui fait que 10% de la population détient une moyenne de 5 biens immobiliers. Et donc, alors c'est pas un sujet de dire on fustige. C'est le maire de Laval qui l'a dit, mais je lui dis, mais il me dit, il faut absolument réguler. Comment on fait pour réguler finalement le fait de maîtriser les prix de l'immobilier quand on voit finalement une décorrélation totale dans un marché qui est régi par la libre entreprise, l'offre et la demande?
Oui, mais
alors, on n'arrivera jamais à résoudre cette équation. Alors, ce que dit le maire de Laval, c'est qu'il faut utiliser finalement, en fait, il faudrait réglementer pour endiguer finalement la hausse de prix qu'il qualifie dans une certaine mesure finalement de spéculative.
Ouais,
et, il n'a pas tout à fait tort.
Il n'a pas tout à fait tort, peut-être. Moi, je ne suis pas...
L'idée pour essayer, Yannick Borde, casquette maire, casquette de l'opérateur immobilier que vous maîtrisez parfaitement, pour essayer de faire en sorte d'avoir un logement abordable? Alors, OK pour le BRS, avec le logement social, OK pour le logement intermédiaire, mais ça ne répond pas à toute la demande.
Non, mais aujourd'hui, sur le logement, la production de logements, il ne faut pas qu'on se concentre. Quand on dit ça, en fin de compte, on le fait, nous, donc c'est presque amende honorable ce que je vais dire là, mais c'est qu'on se concentre sur la construction neuve. N'oublions pas le parc existant. Sincèrement, j'insiste beaucoup parce qu'aujourd'hui, la fiscalité, elle est d'abord sur l'existant. La construction neuve est matraquée, elle n'est pas rentable aujourd'hui pour un investisseur, mais en même temps, sur le parc existant, il y a quand même aussi beaucoup de fiscalité pour le propriétaire occupant comme pour le propriétaire bailleur. Et sont encore plus d'ailleurs pour le deuxième.
Ça va devenir
intolérable. Pour réguler, moi je ne suis pas un grand fan de la régulation imposée, c'est-à-dire la régulation, je crois à la régulation de marché, mais il faut aussi maîtriser un certain nombre de paramètres. Parmi les paramètres qu'il faut maîtriser, il y a celui du foncier. Et moi, quand je vois certains élus qui mettent en avant dans leur bilan la non-réalisation de logements, bah, mécaniquement, sur une ville comme ça, ça veut dire qu'on va augmenter les prix du logement, qu'on va sacrifier une partie de la population de pouvoir se loger sur ces territoires-là. C'est un choix politique que
ils condamnent. Ils choisissent même la décroissance.
Mais voilà. Oui. Et c'est vraiment...
Oui. Bon,
c'est une politique que je ne peux que combattre.
La décroissance démographique, c'est une doxa qui est en train de se répandre.
Je reviens une seconde sur les budgets des communes. C'est vrai qu'ils sont très dépendants de la fiscalité immobilière. Taxes foncières, des MTO, suivant la nature de commune que vous avez. Donc c'est aussi à nous, dans nos budgets, de peut-être se dire au moment que la période de facilité, elle est passée. Quoi. Moi, j'ai demandé à mes équipes à la mairie de Saint-Berthevin, sur la ville, de reprendre un exercice qu'on avait fait sortie de confinement, où on avait checké l'ensemble de nos services, on avait essayé de bien les estimer en termes de budget, comme on fait plus habituellement dans une entreprise. Mais moi, j'ai essayé d'apporter cette culture-là depuis une vingtaine d'années, ce qui est plutôt réussi sur la ville. Donc, c'est de se dire, il y a des choses qu'on sait faire à un moment, il y a des choses qu'on a gardées par habitude, mais est-ce qu'elles ont encore autant d'intérêt dans la forme qu'on les fait? Est-ce que tout ça a finalement un sens? Est-ce que ça correspond à des attentes d'aujourd'hui alors que ça correspondait à des attentes d'hier? Et il va falloir qu'on ajuste tout ça, il va falloir qu'on réduise la voilure sur certains, qu'on réoriente sur d'autres. On est quand même dans un pays où la qualité du service public, elle est au rendez-vous. Je mets de côté les grands services type hôpitaux, police, sécurité peut-être, mais je dirais quand vous êtes sur les territoires, l'accueil périscolaire, la politique culturelle locale, l'accompagnement des équipements sportifs, etc., on est quand même plutôt un pays bien doté, je dirais. Nos espaces verts sont plutôt bien entretenus, nos rues sont propres, voilà, enfin, en une grande partie. Et c'est vrai qu'on se fait engueuler dès que c'est pas le cas. Donc, mais il va peut-être falloir aussi à un moment donné changer de paradigme un peu partout pour tout ça, être un peu plus sobre sur un certain nombre de sujets. Et je pense pas que ça soit de la décroissance. Je pense que c'est tout simplement bien réaffecter les ressources qui sont les nôtres aujourd'hui à des situations plus urgentes.
Les urnes vont parler bientôt, hein, vous le savez,
oui,
puisque
dans 18 mois,
heureusement d'ailleurs, puisque comme ça on va pouvoir peut-être se débarrasser d'une certaine classe politique. Ça ne serait pas une mauvaise chose, puisque quand on voit les chiffres du mal-logement des Français, c'est dramatique, c'est même tragique. Il y a des enfants qui dorment à la rue tous les jours, plus de 2000, de moins de 5 ans, tous les soirs, à Paris. On est en plein hiver. Hein. Donc c'est un drame absolu. On voit bien évidemment que dans le PLF, les contours de la loi de finances sont très décevants pour la fabrique de la ville. Hein, on a laissé tomber cette filière. Et je vous donne un chiffre. Alors je vous donne deux chiffres. Le premier, vous le connaissez, l'INSEE a publié son rapport sur les charges contraintes des ménages. Le logement est passé de 18 à 27% en deux ans. Et surtout, on voit un autre chiffre, c'est celui des défaillances d'entreprises. Voilà. Oui. Ça a été publié par la Banque de France pas plus tard que la semaine dernière. Un peu moins de 66 000 entreprises ont déposé le bilan récemment. C'est plus 0,5% par rapport à 2015, qui a été un pic absolument inquiétant. Et j'ai fait la répartition par segment d'activité. Mmh. Eh bien, 25% des entreprises qui déposent le bilan sont issues de l'immobilier, de la construction. C'est 85 000 emplois qui ont été détruits avec les annonces qui ont été faites par la Fédération française du bâtiment. On a carrément laissé tomber la filière. On est vraiment sur un drame absolu. Que faudra-t-il faire ? On sait que l'État ne nous aidera pas, n'aidera pas la filière de la construction que vous représentez également à travers le réseau de promoteurs immobiliers ancrés dans les territoires partout en France, et je les connais tous puisque j'ai eu la chance avec vous d'aller tous les rencontrer. C'est franchement pas une bonne nouvelle. Hein.
Non, mais on a une situation qui est assez dramatique. Et effectivement, aujourd'hui, on a fait depuis 2017 de la politique du logement, construction neuve, j'insiste bien, construction neuve, un peu la variable d'ajustement budgétaire, plutôt que d'en faire un vrai projet de politique sociale. Parce que d'abord, l'urgence,
c'est
d'aménagement du territoire. L'urgence, c'est loger les gens. Et l'urgence, c'est que les entreprises qui cherchent des salariés trouvent des salariés qui arrivent à se loger à proximité de leur emploi. Et ça, on a échoué là-dessus, très clairement. Donc la politique qui est conduite depuis 2017, là-dessus, elle n'a pas été du tout au rendez-vous. Donc il faut la restaurer. Le problème, c'est qu'on va devoir la restaurer dans un moment de finances publiques très compliqué. Donc il ne faut pas vouloir mettre allumer tous les feux. Il faut vraiment se concentrer. Nous, on plaide, vous le savez, sur le prêt à taux zéro.
Vous savez que la Cour des comptes avait dit a publié un rapport de l'utilité sociale et économique de la loi Pinel, par
exemple. Voilà. D'accord. C'est un autre sujet, mais le premier sujet, nous, c'est vraiment l'accession sociale. Si on veut décongestionner et si on veut refaire le parcours résidentiel, le prêt à taux zéro. Le prêt à taux zéro, à chaque fois qu'on l'a reboosté, ça marchait. Ça a été immédiat, ça a été fait en 2016, ça a été fait à d'autres périodes.
Pour le logement social.
Pour l'accession à la propriété sociale. Parce que quand vous déclenchez l'accession à la propriété sociale, vous libérez dans le parc locatif, privé comme social d'ailleurs, un certain nombre de logements, vous permettez cette rotation qui aujourd'hui est vitrifiée, et donc ça ne marche pas.
Après, donc les petits promoteurs privés, c'est un signal qu'on peut leur envoyer, ce que vous venez de dire ?
Oui, c'est un signal. La question aujourd'hui, nous, c'est... On a l'impression que sur cette question du rétablissement du prêt à taux zéro sur tout le territoire, elle est arbitrée par tous les groupes parlementaires, elle semble être soutenue par le Premier ministre. Bon, maintenant, il y a l'épisode de vote et puis de 49-3. Il faut vraiment que ce soit dans la copie qui sera soumise s'il y a 49-3. Et puis, il faut éviter qu'il y ait trop d'impact derrière. Donc, il faut quand même qu'on arrive à cranter définitivement cette partie du prêt à taux zéro et on aura déjà un signal. Après, relancer la production, c'est plus compliqué parce que relancer la production, effectivement, intégrale, on a besoin à la fois de redonner de l'air aux bailleurs sociaux. Il y a un début d'inversion. Quand le Premier ministre annonce qu'il passe la RLS, la réduction locative de solidarité des bailleurs sociaux, de 1,3 milliard à 1,1 milliard, on peut toujours crier en disant « avant c'était zéro ». Ok, mais c'est une première inversion de tendance. Donc je ne veux pas dire qu'on se raccroche au peu de ce qu'on a, mais il faut quand même le souligner. Donc ça, c'est un deuxième épisode, étape importante, à mon avis, un signe assez fort. C'est plus un signe que... une vraie capacité à reproduire tout de suite, mais en tout cas, c'est plutôt une inversion de tendance favorable, et je pense qu'Emmanuel Coste l'a déjà dit. Et puis après, c'est comment est-ce qu'on accélère sur l'ensemble de la chaîne de construction. Et là, effectivement, vous avez souligné la défaillance d'entreprise. Nous, ce qui nous inquiète, c'est qu'on voit des indicateurs qui s'éclaircissent, taux d'intérêt en est un aussi, et à l'inverse, on voit aujourd'hui une filière qui est en train de s'appauvrir et de disparaître, pour une partie, et on sait très bien, on l'avait connu à mon avis, dans un volume assez moindre en 2009-2010, où quand la reprise avait été là, on avait un peu galéré quand même à trouver des entreprises. Et galérer à trouver des entreprises, ça veut dire aussi que ça ne sera pas dans le cadre d'une baisse de prix du coût de la construction. Donc on a une chaîne qui est hyper compliquée, donc il faut vraiment...
Les compétences ont été perdues, les emplois
les
sont détruits.
Les compétences ont été perdues, les emplois sont détruits.
On va se retrouver en situation de refaire le stock, ça va être compliqué.
Ça va être compliqué, et on est sur un modèle économique très long.
Le réseau, comment il se porte ?
Le réseau, aujourd'hui...
Vos adhérents, ils sont comment ? Objectivement ?
Non, objectivement. Nous, on a une particularité, c'est que quand le marché fait plus 20, on fait plus 12-13. Donc on est toujours moins performant que le marché quand il est hyper dynamique. C'est notre décentralisation, c'est notre présence sur des opérations plus modestes, c'est notre prudence.
Et en cas de crise ?
Et en cas de crise, on est là et on résiste. Et aujourd'hui, moi, je peux affirmer qu'il n'y a aucun acteur des 45 acteurs du réseau...
Aucun acteur adhérent du réseau...
Qui est en difficulté financière.
Est en difficulté,
aucun.
Nos résultats... Ni sous la protection de la justice.
Bien sûr que non.
D'accord.
Non, on en est...
Non, mais il pourrait être en garde.
Oui, il pourrait y en avoir, mais pas du
en
tout.
sous mandat ad hoc.
On a 200 filiales, il n'y en a aucune qui est dans cette situation-là. Alors, nos comptes
qu'est-ce qui prédomine ? C'est la solidarité ?
Alors non, c'est pas la solidarité,
vous aidez
c'est
financièrement.
La prudence. Et puis, on n'a pas besoin d'aider financièrement pour l'instant, collectivement, aucun d'entre nous. Chacun arrive à passer le cap sans trop de difficultés. Bien évidemment, nos comptes d'exploitation, ils sont un petit peu abîmés. Mais aujourd'hui, le sujet, pour une entreprise de notre secteur d'activité, il est à deux niveaux. Le compte d'exploitation, c'est une chose. Si vous faites moins de performance, voire un peu de déficit, je dirais, c'est pas très grave. Ce qu'il faut pas abîmer, c'est la solidité financière. La capacité des fonds propres, la capacité de la trésorerie disponible, parce que vous pouvez mourir sans trésorerie, même avec des fonds propres, c'est la trésorerie, le nerf de la guerre. Et effectivement, comme nous, on est toujours moins puissant que le marché quand le marché est hyperactif, aujourd'hui, on se retrouve peu exposé. Voilà, c'est vrai que nos opérations sont moins rentables, mais en même temps, on n'a pas des opérations qui mettent en péril l'un d'entre nous, loin de là. Donc on a cette... Et puis, on a une diversification aussi. Hein. On fait 1,5 milliard de chiffre d'affaires. Il y a 1,3 milliard sur la construction neuve et la construction de maisons individuelles. Il y a 200 millions pratiquement, un peu plus entre 150 et 200 millions, sur les services immobiliers qui sont aussi des activités qui, dans un business global, aujourd'hui, tamponnent un peu les activités qui sont plus compliquées.
Je reprends ce qu'on disait en préambule, juste pour avoir une clarté, ce sera ma dernière question. Le fonds vert. Le fonds vert va baisser dramatiquement. Le fonds vert dont vous bénéficiez, vous, hein, en tant que collectivité locale, hein, ça vous permet de rénover les bâtiments publics, je précise. Deux, on a effectivement une allocation de, a priori, de ma prime rénov avec l'ANA d'environ 2,6 milliards environ. Soit quand même une baisse quand même significative. Et à ce projet, finalement, de fusionner ou de rassembler les dispositifs privés, notamment les C2E, dont certains d'ailleurs préconisent ou essayent de prophétiser la suppression. Voilà, en guillemets. Dispositif qui a permis beaucoup, beaucoup de réalisation de travaux de rénovation énergétique, qui a permis également à des éco-délinquants de surfer sur la vague. C'est malheureux, mais c'est comme ça. Et ça sera vraiment ma dernière question. Quand on voit cette rigueur également à l'égard de la rénovation énergétique, où c'est un enjeu majeur, vous l'avez dit, et vous avez raison, avec un calendrier contraint, on va y arriver ou pas ? Alors, la banque, effectivement, va permettre de doper le
marché.
Mais
sur le fonds vert, je vais plutôt prendre ma casquette de maire sur ces questions-là.
Un milliard de moins.
Oui,
alors, un milliard de...
je pense qu'à un moment donné, dans des politiques, il faut faire des vrais choix. Moi, je pense que l'État, aujourd'hui, il doit se concentrer sur ce qui est le régalien, c'est-à-dire la santé, l'éducation, la sécurité, la justice et tout le sujet environnemental. Le sujet environnemental, c'est l'avenir, c'est nos enfants, c'est nos petits-enfants, c'est comment tout ça va fonctionner demain. Je voudrais quand même juste témoigner en tant que maire sur cette question-là. Moi, ça fait plus de 20 ans que je suis élu, mais il y a une dizaine d'années, on a activé. On avait fait un peu avant, mais on a surtout accéléré. On s'est dit, nous, nos priorités, ça doit être aussi les bâtiments et la performance énergétique de nos bâtiments. Je le dis parce qu'il y a quelques jours, on a fait un bilan 2017-2023 de l'évolution de notre consommation énergétique. On a été très soutenu là-dessus. La somme des bâtiments de Saint-Berthevin en 2019, c'était 3 millions de kWh consommés par an. En 2023, c'est 2 millions 2. C'est-à-dire moins 800 000 kWh consommés à ISO.
Énorme.
À ISO bâtiment. C'est-à-dire, mais on a mis du pognon. Excusez-moi de le dire comme ça.
Oui, oui.
Je ne vais pas dire un pognon de dingue parce que d'autres ont
cette formation. Faites pas ça.
Cette formule-là, je ne fais pas ça. Mais on a mis de l'argent sur des travaux de précarité énergétique, sur un certain nombre de choses. Alors, ce n'est pas spectaculaire. C'est sûr qu'on n'a pas fait de salle nouvelle. On n'a pas fait. C'est pas spectaculaire. Ça ne se voit pas nécessairement.
Ah, si.
C'est, visuellement, je dis, quand vous le décidez.
Non, oui.
Mais par contre,
oui.
En termes de performance, aujourd'hui, c'est ça. Et les conseillers qui travaillent avec nous nous ont estimé à 500 000 euros. Alors. En même temps, notre facture énergétique a monté parce que les prix ne sont pas les mêmes. Mais si on n'avait rien fait et si on avait encore nos 3 millions de kilowattheures aujourd'hui en consommation,
ça coûterait.
De manière, c'est 450 à 500 000 euros de charge d'énergie supplémentaire qu'on aurait. Et puis, on a un deuxième sujet qui est passionnant dans nos villes, c'est l'éclairage public. Moi, j'adore cette question-là de l'éclairage public parce que d'abord, c'est un budget important. C'est une sensibilité forte pour les gens en termes de sécurité, de sentiment le soir quand je rentre chez moi, etc. Et puis, il y a une espèce d'esthétique aujourd'hui qui est trouvée sur l'éclairage public. C'est fini, les grands candélabres avec une boule en haut qui éclaire plutôt le ciel que la route. Et donc, nous, on est passé, on a révisé nos horaires d'éclairage. On a passé en LED sur la plupart de nos consommations. On a divisé par 2,5 la consommation kilowattheure de nos éclairages publics entre 2017 et 2023.
C'est génial.
On est passé de 480 000 kilowattheures rien que sur l'éclairage public à 220
000. En fait, vous avez dit une phrase... on paye quasiment autant parce que les coûts de l'énergie ont augmenté,
ouais.
Mais en fait, vous aviez déjà anticipé Donc en fait, vous partez du principe que l'énergie coûtera de plus en plus cher, qu'il faudra forcément avoir des outils de contrôle, de réduction de l'énergie.
Et en tout cas, si l'énergie coûte moins cher, on sera gagnant. Ce que je veux dire par là, c'est qu'aujourd'hui, l'État doit prendre en compte que ça marche. Quand il vient nous aider sur le fonds vert, parce que moi j'ai été bien aidé sur le fonds vert, j'étais bien aidé aussi sur quelque chose qui est juste derrière, qui s'appelle le programme ACTE, à travers Territoire d'énergie par exemple. Voilà, donc on a été bien accompagné là-dessus, et ça paye. C'est-à-dire que c'est pas de la subvention pour, on pourrait dire, peut-être pour faire joli, ou pour on sait pas quoi comme performance énergétique. Et je reviens à ça sur le logement, parce que l'un de nos enjeux aujourd'hui, c'est bien de vérifier que ce qu'on finance et ce sur quoi on investit est performant. Et c'est pour ça que je suis assez fier d'exprimer ce bilan qui est le nôtre sur ce champ-là, parce qu'on a été très accompagné par l'État et par la région Pays de la Loire, qui flèche beaucoup d'accompagnement des collectivités locales aujourd'hui sur tout ce qui tourne autour des questions environnementales, que ce soit l'économie d'énergie, la renaturation, la biodiversité, etc. Certains peuvent penser que ça peut être gadget. Non, c'est pas gadget, parce que ça se transmet, c'est à la fois environnemental et c'est aussi à la fois budgétaire. Il ne faut pas casser ça aujourd'hui. Donc ça fait partie des arbitrages que nous, on essaie de pousser en disant ne cassez pas cette partie-là, conservez cette dynamique fond vert qui avait été imaginée.
La dernière chose que je voulais vous dire, c'est 2025, campagne municipale.
26.
Oui, 2020. Non mais campagne municipale qui va démarrer.
Oui, on va annoncer ça à l'été.
Et donc vous vous représentez.
Mon intention aujourd'hui est de représenter. On est un petit peu... D'abord, moi, je vais être peut-être un peu en contradiction avec ce qu'on entend parfois sur les maires, c'est que je prends énormément de plaisir dans le mandat de maire.
Mais vous avez une commune, finalement, où...
Oui, c'est une commune qui est sans doute un peu plus simple que la moyenne. Ça, je veux bien l'entendre.
Tous vos chiffres donneraient envie à n'importe quel maire d'une ville de 10 000
habitants. Ça n'empêche pas quand même d'être mis à contribution sur plein de sujets divers et variés.
Mais
en tout cas, très sincèrement, je prends énormément de plaisir dans ce mandat-là. On est vraiment sur le mandat utile, quoi. C'est-à-dire qu'il faut aimer les gens, mais en même temps, il faut aussi répondre à leurs questions.
Vous seriez favorable à ce que n'importe quelle personne qui est ministre ou qui deviendrait président de la République devrait avoir dans les conditions d'accès mandat d'un élu local?
Je ne sais pas s'il faut le mettre dans les conditions strictes, mais en tout cas, je pense que l'électeur devrait regarder cette partie-là. Parce que ça, c'est la vraie vie, quoi. Très clairement, c'est au quotidien. Moi, je vais rentrer ce soir chez moi. Demain matin, je vais passer une partie de ma journée demain
à la mairie.
Ça va être entre l'EHPAD, qui est un sujet passionnant et sur lequel on est en train de travailler des solutions, parce que là aussi, les modèles économiques sont chahutés. Essayer de recevoir demain soir un certain nombre d'associations. Voilà, donc c'est sûr qu'il faut aimer ça. Tout le monde n'aime pas ça. Voilà. Et il faut être aussi en capacité... à traiter les dossiers importants pour une collectivité locale. Mais j'aurais tendance à dire que sur cette partie-là, vos électeurs vous font assez confiance parce qu'eux estiment qu'ils ne sont pas dans le dossier, donc ils sont beaucoup plus gênés pour émettre des commentaires, mais surtout répondre au quotidien. D'ailleurs, aujourd'hui, 80% de notre temps, c'est de répondre au quotidien plutôt que de travailler les gros dossiers.
Et vous avez le talent pour ça. À quand, Yannick Borde, président de la République? Alors, merci Yannick Borde d'être revenu sur le plateau. C'est toujours un plaisir d'échanger avec vous. Quelqu'un qui connaît bien ces dossiers. Et pour cause, les maires sont aujourd'hui les seuls fantassins de la République face aux citoyens. Et c'est bien de s'en rappeler. Voilà, il est 12h52. On va se retrouver dans quelques instants avec nos amis de WeInvest. Et on continue ici notre parcours. Bon salon à vous.
Merci.
Le Salon des maires et des collectivités locales du 19 au 21 novembre 2024 à Paris Expo, Porte de Versailles sur Radio Immo et Radio Territoria.